25 millions de personnes infertiles en Europe, 3,3 millions en France. 25 millions de parcours de vie marqués par le désir d'avoir des enfants, des hommes et des femmes confrontés à l'infertilité, aux difficultés et aux espoirs des parcours d'AMP. Fertility Europe, association ombrelle qui représente au niveau européen plus de 30 associations nationales, organise l'European Fertility Week, semaine européenne de la fertilité, avec pour thème cette année le parcours patient en AMP. 25 millions de parcours patients, un défi unique, l'infertilité. L'association collective BAMP, membre de Fertility Europe et du conseil d'administration de Fertility Europe, a souhaité faire entendre les voix, les mots, des personnes qui sont actuellement en parcours d'AMP, d'autres qui sont sorties des parcours avec ou sans enfants. Des voix, des vécus, des émotions importantes à faire entendre au plus grand nombre. Merci à toutes ces personnes qui se sont livrées. Merci à Fertility Europe pour l'European Fertility Week.
Ce qui m'a le plus marqué pendant mon parcours PMA, c'est le flou dans lequel j'étais laissée par le corps médical concernant les traitements que je suivais et leurs chances de succès. Le traitement exactement qu'on me donnait, pourquoi on me le donnait, comment on l'ajustait. Voilà, je devais juste suivre ça à la lettre. Toutes les questions que je posais restaient sans réponse et c'était assez déstabilisant. On me demandait même pourquoi je voulais, j'avais autant de questions, pourquoi je voulais savoir tout ça. J'avais qu'à faire confiance au médecin et surtout y croire, parce que si j'y croyais pas, c'était sûr que ça marcherait jamais. Et j'ai trouvé cette absence d'information, dont la demande était pourtant légitime, puisque c'est bien de mon corps dont il s'agissait, et cette culpabilisation, voire cette infantilisation, très désagréable, et ça a vraiment contribué à rendre mon parcours extrêmement difficile à vivre au quotidien, à la fois physiquement et psychologiquement.
Alors c'est difficile de résumer une épreuve si complexe, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'incertitude, vraiment ce fait de jamais savoir quelle sera l'issue de nos parcours.
On commence par espérer et on finit par prier.
La notion du temps qui passe.
L'attente des résultats.
Des rendez-vous aussi, enfin, en fait l'attente de tout.
Ce qui est le plus marquant dans mon parcours AMP, c'est la négligence de mon conjoint.
Le plus marquant pour moi, c'était le besoin de faire le travail des médecins. Finalement, toujours arriver en rendez-vous en ayant fait des recherches sur les examens qui existent, par exemple.
De mon côté, ce qui était le plus marquant, c'est la succession d'échecs et d'espoirs qu'il peut y avoir dans un parcours d'AMP. On peut tomber très très bas et ensuite, il faut de nouveau espérer très très fort pour que ça fonctionne.
Il y a plusieurs choses qui nous ont marquées dans notre parcours d'AMP. L'errance médicale pendant presque 3 ans que nous avons vécue due à une absence d'écoute et de prise en compte des ressentis et des preuves apportées, mais aussi due aux réglementations pour réaliser les examens sur les fausses couches, attendre les 3 pour y avoir accès. Le manque d'accompagnement et soutien, des propos malveillants de la part du personnel médical et toujours avoir le sentiment de se battre, de tenir tête et d'argumenter pour nos droits. Droit au respect du corps, droit au consentement, droit aux explications et droit d'avoir des examens pour comprendre ce qui se passe dans notre corps.
Je dirais que c'est la découverte du milieu médical et en fait la découverte que la médecine n'était pas une science exacte, qu'il y avait plein d'avis différents et que parfois elle n'apportait pas de réponse à tout.
Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué pendant le parcours AMP, certaines sur l'instant, d'autres a posteriori. Alors sur l'instant, c'est vrai que la procédure en fait que nous avons suivie, elle ne m'a pas paru personnalisée, adaptée par rapport aux raisons qui pouvaient expliquer que nous ne pouvions pas avoir naturellement d'enfants. Et donc, moi, je peux pas m'empêcher de penser que sans un diagnostic un peu établi sur les points durs, on a du mal après derrière à déclencher les actions qui vont bien pour faire en sorte que le parcours fonctionne. Après, le deuxième point, c'est le manque d'accompagnement, ou en tout cas, tout l'extra médical, en fait. Donc, l'accompagnement psychologique, la prise en compte, on va dire, du couple et de l'environnement dans lequel le projet s'insère, j'ai été assez surpris que ça ne soit pas abordé dans les différentes démarches que nous avons pu réaliser. Et enfin, ce qui m'a surpris a posteriori, en fait, après qu'on se soit rendu compte que ça ne fonctionnait pas, c'est en fait l'incapacité du corps médical à aborder le sujet de l'échec, en fait, comme si c'était un sujet tabou, comme si ça remettait en question leur capacité à soigner ou à être des bons médecins. Alors qu'en fait, c'est juste une possibilité parmi tant d'autres à l'issue du parcours PMA. Et donc, je pense que c'est comme toute autre issue possible au parcours, c'est un sujet qu'il est important d'aborder assez tôt dans le parcours.
Alors, dans mon parcours PMA, pour moi, le plus marquant, c'est la souffrance morale. Effectivement, il y a une souffrance physique, mais par rapport à la souffrance psychologique, il n'y a pas photo. C'est ces montagnes russes, c'est passer de l'espoir à l'échec, c'est l'attente aussi, l'attente après un transfert, après une insémination, et c'est cette question qui revient toujours et tout le temps pendant ce parcours, est-ce qu'un jour je serai maman ?
C'était quand la gynécologue, au tout premier rendez-vous, là, c'était il y a à peine un an, la loi était à peine passée, j'avais pris le rendez-vous alors que la loi était... Les décrets étaient même pas divulgués, voilà. Et donc, elle a vu que j'avais une réserve ovarienne qui était basse, et puis du coup, ça s'est révélé donc par la suite, là, avec tous les examens. Donc je pense que ça, c'est le moment le plus marquant du parcours. Voilà, je pense que ça déclenche pas mal de choses quand on apprend ça. Ça accélère un peu la machine, on va dire.
Je pense que c'est le passage de l'espoir au désespoir en quelques heures. On peut monter très haut et redescendre très bas juste après, et vice-versa.
Éprouvant, remuant et rebondissant.
Parcours du combattant.
Montagne russe, peur,
espoir
et bonheur.
Ce qui a été le plus marquant, c'est vraiment la souffrance très profonde dans laquelle on se trouve et dont on a l'impression qu'on ne va jamais sortir et dans lequel on s'englue et qui nous éloigne des autres, qui nous fait vivre des sentiments assez négatifs, de jalousie, de colère, de culpabilité. Et donc aussi cette incertitude sur le résultat. Est-ce qu'un jour on aura un enfant ? Et quand est-ce qu'on l'aura ? Ça, personne peut le dire. Et cette incertitude-là, elle est très douloureuse à vivre d'un point de vue psychologique.
Je dirais que c'est de découvrir un monde totalement à part, qu'on n'est pas seul dans ces difficultés. Donc ça nous aide à surmonter les choses. Isolement,
solitude,
persévérance,
isolement, et maladresse
et solitude.
Solitude.
Que j'aimerais changer dans mon parcours PMA, ça aurait été d'avoir une transparence absolue de la part du corps médical. Et j'aurais aimé vraiment qu'on s'asseye autour d'une table à chaque étape, après tous les examens qu'on vous demande de faire, le bilan de fertilité, et aussi après chaque tentative, que ce soit les inséminations ou les FIV, pour qu'on me débriefe complètement et qu'on m'explique en fait ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on va faire la fois d'après, et surtout quel pourcentage de chance ça a de fonctionner au vu de l'expérience des médecins, de ce qui s'est déjà passé. Ça m'aurait permis, moi, de me préparer à l'échec des FIV, puisque je fais partie des gens pour lesquels la PMA n'a pas fonctionné, malgré diverses tentatives dans divers établissements. Et vivre un échec, des échecs de PMA et se retrouver sans enfant alors que on vous a jamais dit que ça risquait de se passer comme ça et qu'au contraire on vous a dit non mais il faut que tu y crois, sinon si tu y crois pas ça fonctionnera pas, ça se passe dans la tête, c'est très difficile à vivre. On tombe vraiment de notre arbre quand on se retrouve face à des situations. Donc ça aurait pu être grandement simplifié, cette étape d'acceptation de l'échec, avec une bonne information au départ et une vraie transparence du corps médical, que j'ai senti extrêmement réticent à communiquer des informations. Peut-être parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes, mais c'est pas comme ça que je l'ai perçu en fait.
Ce que je souhaiterais, c'est vraiment avoir une meilleure prise en charge de l'humain. C'est-à-dire être dans un centre et se sentir accompagné, se sentir bien déjà, et accompagné par le personnel soignant, par les gynécologues. Aujourd'hui, je me sens pas du tout pris en charge humainement. Je me sens un peu comme on se sent comme un numéro, quoi. C'est vraiment une usine, et chacun passe pour son écho ou pour son transfert. Donc vraiment là, il faut vraiment vraiment faire quelque chose pour l'accompagnement humain, l'accompagnement des couples. Ça, c'est super important et je pense qu'il y a tellement d'améliorations à apporter.
L'accompagnement psychologique qui est quasiment inexistant dans certains centres. J'en ai testé plusieurs et franchement, je pense que c'est même primordial pour pouvoir surmonter les différentes épreuves, que ça dure 1 an, 2 ans ou 10 ans.
J'aurais aimé obtenir plus d'écoute. C'est vrai que c'est un suivi qui est très axé sur la partie médicale. Mais au-delà de ça, l'infertilité, elle pose des questions autour du désir d'enfant, des moments d'espoir, de désenchantement, des questions de chemin alternatif, de deuil. Et ces questions-là, je trouve qu'elles sont assez peu prises en compte.
Un meilleur suivi et de l'écoute de la part des personnels soignants.
Une prise en charge plus personnalisée, adaptée à nos singularités.
Alors, c'est la prise en compte de la situation psychosociale, que l'on nous aide à avoir des arrêts de travail, notamment pour le conjoint lorsqu'il s'agit de FIV, qui n'a pas d'arrêt de travail alors qu'il doit se rendre sur site pour faire le don de sperme, et que l'on ait également un suivi sur le plan psychologique. D'autre part, ce qui serait vraiment idéal, ce serait d'avoir une infirmière coordinatrice qui puisse suivre le parcours des patientes et des patients, les accompagner et les mettre en lien avec les professionnels, que la prise en charge soit vraiment pluridisciplinaire.
Alors, je répondrai, j'aimerais que le DPIA soit enfin autorisé en France et également qu'il y ait une meilleure prise en charge humaine, par exemple que le centre pense à avoir des mouchoirs dans le bureau des praticiens pour qu'on puisse essuyer nos larmes lors des rendez-vous.
Moi, je demanderais des labos à la pointe de la technologie. Je demanderai aussi le remboursement d'examens complémentaires type Matrice Lab ou Intest, et des traitements les plus efficaces aussi, comme la progestérone injectable, par exemple.
Ce que j'aurais souhaité dans mon parcours MP, c'est de pouvoir échanger avec des couples qui avaient été en parcours, ou qui l'étaient toujours, et avec qui nous aurions pu échanger nos propres retours d'expérience, hein. Ça permet de lever un peu la tête du guidon, car le parcours est très, très contraignant et très exigeant. Ça permet de se poser des questions différentes de celles dans lesquelles on est d'habitude. Ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul. Et je trouve que ça fait du bien, en fait, de parler avec d'autres personnes sur les difficultés que chacun peut rencontrer, les questionnements que chacun peut avoir. C'est très bon. Je m'en suis aperçu a posteriori quand nous avons pu rejoindre des groupes de parole autour de la vie sans enfant. Et je dois avouer que si je l'avais pu le faire dès le début du parcours, j'aurais mieux vécu ce parcours.
J'aimerais mieux comprendre comment ça se passe d'un point de vue biologique. J'aurais aimé avoir plus de temps d'échange, plus de soutien psychologique, d'être plus amenée à rencontrer d'autres couples dans la même situation. Peut-être le système d'avoir des pères aidants, je trouve que ça doit être intéressant. Et puis pour moi, une plus grande considération aussi de la place de l'homme dans ce parcours et la considération de la fertilité masculine.
Pour améliorer les parcours AMP, j'aimerais un meilleur accompagnement, plus individuel et bienveillant, avec plus d'écoute, de considération, de soutien, d'explication, avoir des informations générales sur des sujets tels que l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, mais aussi les médecines douces complémentaires qui permettent de soutenir et favoriser ce parcours et nous inclure comme partenaires et non comme patients malades qui ne connaissent rien.
Ouais, au niveau du parcours en lui-même, c'est peut-être éviter les trucs de dernier moment. Parce que bon, j'en ai eu plusieurs, les rendez-vous décalés au dernier moment, ou alors j'attends la réponse et on me dit « ah bah non, en fait, il faut que ça passe en commission », ou alors une autre fois on me dit « il faut pas que ça passe en commission », enfin, et au dernier moment, c'est toujours « j'ai pas l'info, j'attends pour commencer les piqûres », et puis on me dit au dernier moment « ah bah non, finalement, ce sera dans 2 mois », enfin, voilà, il y a ça qui peut être un peu compliqué à gérer, cette sorte de toujours s'adapter, en fait, voilà. Et puis sinon, bah, de manière plus large, en fait, mais ça, c'est plutôt un problème sociétal. Il faudrait plus de communication là-dessus, bon, déjà sur la PMA de manière large, parce que c'est quelque chose de tabou. Et puis, bah, surtout maintenant, hein, depuis un an, depuis bon, un an et demi, presque, que la loi est passée. Bon, ça serait pas mal d'en parler plus, notamment des femmes solo comme moi. Et puis des femmes couples lesbiennes, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Déjà, la PMA, c'est un sujet tabou, parce que tout le monde est resté sur l'idée il faut faire l'amour un homme, une femme, naturellement. Et puis voilà, et si ça marche pas, c'est qu'il y a un souci. Et donc, on le dit pas, et on raconte pas tout ça, en fait, tout ce parcours. Et puis bah c'est vrai qu'on sent un genre du coup hein, une sorte de poids de la société bah voilà une fois de plus qu'on n'est pas dans la norme déjà bon on est célibataire moi je peux pas parler des couples lesbiennes mais je parle pour les célibataires déjà il y a la norme du célibat et puis bah là la norme de faire un enfant célibataire bah alors là ouh donc ce serait pas mal d'en parler un peu plus d'en entendre un peu plus parler pour que ça rentre un petit peu dans les mœurs.
Harmoniser les examens initiaux. Je trouve que suivant les centres et les médecins, ils sont plus ou moins poussés et ça amène des couples à perdre du temps, parfois, et des tentatives. Et par exemple, pourquoi les examens de l'endomètre ne sont que très rarement prescrits avant transfert ?
En fait, le plus dur, c'était la grossesse. Avant, c'était rien comparé à la grossesse. Et la grossesse, on disait on va en profiter, mais en fait c'était pire que tout parce qu'on était tellement proches et tellement loin en même temps que c'est la grossesse que je changerais.
Ah, j'aurais aimé changer beaucoup de choses dans la relation avec les professionnels qui nous ont accompagnés, mais qui nous ont reçus dans leur bureau du bout des doigts. Ça, j'aurais voulu le changer. Plus de considération, moins d'infantilisation, plus d'explications, plus d'engagement de la part de ces professionnels-là. Ce que j'aurais aimé changer aussi, c'est évidemment tout ce qui s'est pas bien passé dans le parcours. Donc tous ces échecs sans explication, tout ce temps perdu, tout ce... Voilà, ça j'aurais aimé le changer. Et par contre, je ne souhaiterais pas changer la fin du parcours, parce que la fin du parcours nous a amené deux superbes bébés qui sont aujourd'hui de grands enfants magnifiques. Et ça, c'est vraiment bien.
Warrior. Appréhension, attente, persévérance, amour, ignorance.
Long, difficile et fatigant.
Force,
combat,
résilience,
couple.
L'incompréhension.
Et je dirais amour.
Le soutien, injustice. Et le couple.
Résilience.
Et pour ma part, résilience, et patience espoir, et obstination.
Je dirais la rage. La rage que je pouvais éprouver face à notre situation, face à l'immobilisme des premiers médecins qui nous ont suivis. la rage de ne pas pouvoir obtenir simplement ce qui se fait normalement, très simplement. Un autre mot, c'est le voyage, parce qu'il a fallu voyager. Il a fallu rencontrer des gens. Et le troisième mot, c'est la conclusion, puisque notre conclusion est belle. En tous les cas, elle nous fait plaisir. Et donc la conclusion, elle arrive à un moment où on s'y attend plus presque, où tout est perdu, mais on y va quand même, parce qu'au fond de nous, on trouve des petites ressources. Et finalement, la joie est au bout.
Je dirais en premier que c'est une épreuve qui se vit à deux. En deuxième mot, je dirais solitude, parce que on peut parfois rencontrer ce sentiment d'être assez isolé. Et en trois, je dirais merci Bamp de mettre autant d'énergie pour faire bouger les choses et de proposer du soutien aux personnes en parcours.
$25 millions de parcours patients en AMP. Des parcours simples et rapides pour les uns, des parcours tortueux et longs pour les autres, des parcours infructueux, des parcours heureux. Des parcours qui impactent la vie, le quotidien, la sexualité, l'estime de soi, le travail, les émotions, les relations aux autres. L'infertilité est une épreuve qu'il faut faire connaître au plus grand nombre. Témoigner. Pour que la considération portée aux personnes concernées soit plus bienveillante, mais surtout pour améliorer ce qui peut l'être dans l'accompagnement quotidien de cette épreuve, pour améliorer les diagnostics et les options thérapeutiques, pour permettre d'aboutir plus rapidement à une grossesse ou pour orienter plus rapidement sa vie vers d'autres chemins. Témoigner pour faire bouger les choses, pour plus de prévention et pour éviter au plus grand nombre cette épreuve de vie. Merci aux personnes qui ont participé à ce projet. Merci à Fertility Europe pour l'organisation de la semaine européenne de l'infertilité et pour le soutien apporté à ce podcast.